bonheur à contempler le maître de la terre entière, et le souvenir du temps qu'il avait perdu dans ses jeunes années mit sa conscience à la torture. Bientôt, cependant, il fut envahi d'une joie surnaturelle qui lui rendit la paix intérieure, et tout à coup, ravi, en extase, dans une nappe de lumière qui allait s'élargissant, il vit la foule immense de ses disciples à venir s'étendant jusqu'aux extrémités du monde. Lorsqu'il revint à lui, il retourna vers ses frères, transformé par l'idée qu'il avait reçu une mission. Allait-il convertir le monde? On peut croire que c'était son rêve, un de ses nombreux rêves qu'il avait guidés depuis son enfance. Pour le moment, il lui fallait instruire ses disciples. Il commença par leur décrire sa vision qui ne manqua pas de les ravir. Une multitude venant de tout pays vivre sous leur habit. J'ai même encore dans les oreilles le bruit de leurs pas. On imagine l'enthousiasme de la petite troupe. De France, d'Espagne, d'Allemagne et d'Angleterre, une foule aux multiples dialectes se hâtant vers eux. Le prix dont se paieraient ces grâces fut présenté ensuite avec douceur. D'abord se cueilleraient des fruits exquis, puis d'autres moins doux et moins suaves, enfin d'autres encore, et ceux-là amers, immangeables. Bref, ils allaient mendier, mais ils ne devaient pas oublier qu'un jour le Seigneur ferait d'eux une grande nation. Tenir bon. Mon église tombe en ruine, avait dit le Christ à François dans la petite église de San Damiano. Ce qui était vrai de San Damiano l'était beaucoup plus de l'église qu'il avait fondée et qui se détruisait spirituellement. Les maux qui sévissaient ne variaient pas depuis des générations. Simonie, avarice, grossièreté des mœurs et mépris des exigences évangéliques, c'était un catalogue de ce qu'il ne fallait pas faire. Des milliers d'âmes chrétiennes soupiraient après l'idéal que proposait Dieu dans les Écritures, et voyant que l'Église ne le leur donnait pas, erraient et cherchaient ailleurs. Où ? Touchés notamment par la ferveur d'un Pierre de Vaux ou de prédicateurs cathares qui confrontaient l'Évangile au luxe païen de l'Église romaine et à la corruption cynique d'un clergé qui avait perdu le sens de sa tâche ou qui ne s'y était pas préparé, elle suivait ses nouveaux bergers. Sans doute il y avait des exceptions. Les saints ne manquaient pas dans des lieux parfois isolés, comme s'ils étaient à eux seuls la véritable Église. Il y eut même des saints comme jamais tout le long du XIIe siècle, hommes et femmes surtout, parmi les grands visionnaires et les grands mystiques. Avec l'énergie si particulière à leur sexe, elles se tiennent tout le long du siècle comme des statues plus grandes que nature. De sainte Lutgarde à Élisabeth de Thuringe, de Mechthilde de Magdebourg à Élisabeth von Schönau, au fond des monastères et sur les marches du trône, de sainte Hildegarde à Élisabeth de Hongrie. Mais le désordre général formait un écran d'une éloquence trop spectaculaire pour que l'Église ne fût pas menacée d'un désastre. Or, elle était dans l'Occident la seule Église chrétienne reconnue par la majorité du peuple. Se séparer d'elle parce qu'elle n'était plus évangélique, c'était aller grossir les rangs des hérésies qui se réclamaient de l'Évangile pur et simple, mais sans Église. Et qu'est-ce que François voulait d'autre que l'Évangile avec sa règle faite de trois versets impératifs? Ce que tout le monde voyait, il le voyait aussi. Mais si dégradée que fût l'Église, elle restait malgré tout à ses yeux la maison du Christ. Un hérétique lui désigna un jour un prêtre qui vivait ouvertement avec une concubine, et la question assidieuse fut posée à François. Si la messe dite par cet homme aux mains souillées pouvait être valable. Pour toute réponse, François alla vers le prêtre, et s'agenouillant devant lui, baisa les mains qui tenaient à la messe le corps du Seigneur. Ce fut ce sens de l'Église qui garda François de verser dans ce qui pouvait être déjà un protestantisme naissant, comme ce fut le cas des frères du libre-esprit. Influence manichéenne. Aux moqueries et aux insultes des assisiates succédait peu à peu un respect proche de l'admiration, quand les mendiants de François demandaient humblement à manger